With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, c'est Thomas Rozek. Mon premier vrai souvenir politique date d'il y a précisément 24 ans, le 7 mai 1995, jour de la victoire de Jacques Chirac à l'élection présidentielle. Je m'en souviens parce que j'avais 8 ans et demi et j'étais content au grand désespoir de mes parents écolos. J'étais content non pas parce que j'avais une quelconque idée de ce que gauche ou droite voulait dire, mais parce que pour moi, c'était la marionnette des guignols qui avait gagné. C'est l'illustration la plus vive que je puisse vous trouver du poids énorme de ce que cette représentation caricaturale a eu sur le cerveau des Français, surtout lorsqu'on sait à quel point les stratèges de com' autour de Chirac ont tout fait pour en jouer au maximum à l'avantage de leur candidat, en accentuant les traits les plus saillants de sa personnalité, ceux-là même que soulignaient les guignols. 24 ans plus tard, la communication a toujours un rôle décisif sur la politique, mais les leviers de la diffusion de la compol, comme on dit, ont volé en éclats. Pire, depuis un an, on observe le gouvernement se risquer au jeu très dangereux de la fake news, que ce soit lors de l'affaire Benalla et de sa vidéo trafiquée, ou tout récemment lors de l'épisode de la vraie fausse invasion de la Pitié-Salpêtrière. Tout ça nous a donné envie de remonter un peu le fil de notre histoire politique, de voir comment la com a fini par prendre le poids et les contours qu'on lui connaît aujourd'hui, et de se poser derrière cette question, est-ce qu'on ne serait pas passé de la compol à la trollpol ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Notre guide dans cette rapide histoire de la compol à travers les âges, ce sera Pierre-Emmanuel Guigot. Il est historien, enseignant-chercheur à l'Université Paris-Est Créteil et à Sciences Po et chercheur associé au CNRS. Pour démarrer, je lui ai demandé s'il y avait une définition précise de ce que recouvrait l'expression « communication politique ».
Oui, il y en a même deux. En fait, il y aurait une définition, on va dire, large, qui recouperait du coup toutes les formes de communication dans l'espace public, donc impliquant les acteurs politiques, mais pas seulement, impliquant aussi les citoyens, les associations, dès lors que tout ce monde cherche à construire cet espace public et cherche à être en concurrence pour l'établissement du pouvoir dans la société. Ça, c'est une définition qui serait large. Après, il y a une définition plus restreinte, c'est malheureusement, j'aurais tendance à dire, celle qu'on emploie le plus souvent, en particulier en sciences politiques ou par exemple en histoire. Et dans ce cas, la communication politique, ça serait essentiellement la communication des acteurs politiques, c'est-à-dire des leaders politiques, des personnalités politiques, mais aussi des partis, des formations politiques, du gouvernement, ainsi que des institutions. Et voire potentiellement aussi des associations ou organismes qui sont dans la compétition directe pour la conquête du pouvoir.
Comment est-ce qu'elle s'est installée historiquement dans le paysage politique, cette communication ? On a l'impression que c'est très lié finalement à la Ve République et au développement, on va dire, des outils de communication de masse comme la télévision.
En fait, clairement non. C'est-à-dire que la communication politique, elle est consubstantielle à la politique. Ouais. Depuis qu'il y a politique, il y a communication politique. Ouais. Les anthropologues nous ont bien montré ça, je pense aux travaux de Georges Balandier, qui montre bien qu'il y a déjà ce qu'il appelle lui la théatrocratie, dans les sociétés dites primitives.
C'est le règne du théâtre.
Oui, c'est l'idée qu'on va mettre en scène la politique, ce qui est une des composantes, ce qui n'est pas la composante unique, mais une des composantes de la communication politique. Donc ça a toujours existé. Néanmoins, ce qui va émerger de manière contemporaine, c'est le fait de systématiser cette communication politique, de recourir à des acteurs extérieurs, professionnels, donc les conseillers en communication, d'avoir des techniques spécifiques qui du coup vont s'apprendre dans des écoles, vont être diffusées, vont servir de modèle entre des pays ou même entre des partis politiques. Ça, effectivement, c'est relativement nouveau. Le dernier acteur qui est aussi, dernier élément, pardon, qui est aussi nouveau, c'est la médiatisation. Dans les sociétés dites primitives ou dans les sociétés anciennes, des médias, il y en a pas tant que ça. Il y a la voix, évidemment, lorsqu'on est à la tribune. Il va y avoir les monuments, qui sont un élément de communication politique de manière très ancienne. Avec l'époque contemporaine, on a l'émergence des médias, et notamment des médias de masse, qui là vont changer la donne, parce qu'on va s'adresser directement, tout de suite, à un très grand nombre de personnes. Et ça nécessite une adaptation. Et c'est là, effectivement, que va petit à petit émerger cette communication politique telle qu'on la connaît aujourd'hui.
C'est quoi les grands marqueurs, si on se projette sur l'histoire contemporaine, pour le coup, l'histoire de la Ve République, on va dire, sur ces 70 dernières années, c'est quoi les grands marqueurs de la communication politique contemporaine?
Alors, déjà, les grands marqueurs sous cette Ve République, il y a la personnalisation croissante. Ouais. Clairement, on est dans un régime où la personnalité du chef est un élément essentiel. Comme marqueur essentiel, on a également sans doute une forme de simplification du langage. Parce que justement, il faut passer dans les médias, il faut être invité, il faut faire simple, il faut parler à tout le monde. Et donc, ça a été étudié d'ailleurs par des linguistes, on a une simplification au fil du temps du discours pour justement toucher, faire plus bref aussi, et toucher plus facilement le public. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir également comme autre type de marqueur spécifique à cette communication politique sous la Ve République? Il y a sa professionnalisation aussi. C'est une tendance profonde que l'on constate depuis une cinquantaine d'années, qui a émergé d'abord aux États-Unis, un pays où il y a un marché beaucoup plus vaste oui. pour ce secteur-là, et donc qui vient souvent d'ailleurs, une professionnalisation qui vient des techniques de la publicité et du marketing et qui est transférée à la politique. Et ça, effectivement, cette professionnalisation, on continue à la constater au jour d'aujourd'hui, avec des limites. Suivant les pays, ce n'est pas exactement la même chose. Aux États-Unis, elle est très poussée, dans les partis même et à l'extérieur des partis, parce qu'il y a un véritable marché. Elle l'est beaucoup moins en France, où la professionnalisation, parce que tout le monde, mine de rien, a intégré ces techniques-là. Le président de la République lui-même montre bien qu'il a complètement intégré les règles du jeu médiatique actuel. Mais néanmoins, cette profession de conseiller en communication ou de political advisor, comme l'appellent les Américains, en France, elle reste relativement limitée parce que le marché est beaucoup plus restreint. L'argent sur ce marché est aussi beaucoup plus faible qu'il ne l'est aux États-Unis.
C'est qui les grands personnages, puisqu'on reste dans une dynamique un peu historique, les grands personnages historiques de la communication politique contemporaine, ceux qui ont fait changer cette communication dans la Ve République en France?
Alors, si on prend le cas de la France, il y a évidemment De Gaulle, ouais. Qui installe finalement le modèle qui est à la fois inaccessible et en même temps recherché par un peu tout le monde, cette forme de sacralité qu'il va imposer avec la télévision. Et donc, il est le modèle inatteignable, en fait, de toute communication politique. Tout le monde essaye de faire un petit peu comme lui. L'idée de Jupiter, ça vient d'ailleurs de là. Hein. Ça vient aussi de François Mitterrand, mais ça vient quand même de Charles de Gaulle. L'idée de faire princier, d'utiliser les ors de la République, ça vient clairement du général de Gaulle.
Et tout en s'adressant directement à la presse, dans le cadre de conférences de presse, notamment, parce que de Gaulle était connu pour ça.
Oui, alors les conférences de presse de Gaulle, c'est effectivement un cas un peu spécifique, puisque tout était préparé à l'avance, oui. et toutes les questions étaient écrites par De Gaulle et ses conseillers. Donc, c'était un autre schéma que ce qu'on peut connaître, encore que on a vu récemment que les choses pouvaient revenir un petit peu à ce stade-là. Néanmoins, effectivement, il y a aussi chez De Gaulle la volonté d'une certaine proximité. Alors, ça reste assez limité parce qu'on est dans les années 60 et que le personnage du chef de l'État, c'est quand même un personnage que l'on respecte infiniment, surtout lorsqu'il a la stature de De Gaulle. Mais voilà, il savait utiliser aussi son franc-parler, voire même un langage un petit peu qui sort du champ politique. On se souvient de la Chianli ou quelques exemples qu'il utilisait qui venaient véritablement d'une connaissance populaire.
Mesdames, messieurs, le moment m'a semblé venu où il pourrait m'être possible d'être utile encore une fois directement à la France.
Alors voilà, c'est le modèle un peu inaccessible. Après lui, parce que les autres n'avaient pas son aura, n'avaient pas son expérience, n'avaient pas son passé, ils vont aller vers un modèle, on va dire, un petit peu plus direct, plus proche des citoyens. Ils vont rechercher une plus grande proximité. Ils n'abandonnent pas complètement la sacralité. Hein. Giscard avait effectivement ce côté, il était souvent comparé à Louis XV, donc il avait ce côté un petit peu royal ou princier, lui aussi. Pompidou également avait une certaine stature et imposait le respect, mais ils amènent quelque chose d'autre, de peut-être plus humain, dans une société post-mai 68, où on cherche justement une plus grande proximité entre l'élu et les lecteurs. Et donc, ça va passer par quoi? Ça va passer notamment par la peopleisation. Dès cette époque-là, vous avez les débuts de la mise en valeur de la vie privée des politiques, avec Pompidou et son épouse, puis par la suite, surtout avec Giscard, qui va s'afficher avec ses filles, évidemment,
avec Anémone, son épouse,
en vacances, avec son chien également.
Et qui sont les hommes, et les femmes qui sont derrière ces parce que là on parle des personnages de premier plan, mais on expliquait tout à l'heure qu'il y avait donc eu au cours du temps une forme de professionnalisation et donc l'arrivée autour de ces présidents d'acteurs de la communication pure et dure. Est-ce qu'on les connaît?
Oui, alors ces conseillers en communication, aujourd'hui, on les connaît. Dans mes travaux, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'on les fantasme beaucoup, parce que il y en a certains qui ont essayé d'être secrets. C'est le cas de Jacques Pilant, qui a détruit une bonne partie de ses papiers, de ses archives à sa mort, enfin, un peu avant sa mort. Donc, effectivement, ils sont un petit peu secrets. Mais en même temps, on a beaucoup d'éléments pour les connaître. Et je disais qu'on les fantasme parce que dans les séries télé, on les voit comme des acteurs tout puissants qui tireraient les ficelles. Sauf que quand on regarde en détail, on s'aperçoit que certains ont eu de l'influence, c'est clair. Néanmoins, leur influence est aussi à relativiser parce que il n'y a pas que des conseillers en communication dans un entourage. Il y a beaucoup d'autres conseillers. Souvent, ces conseillers en communication, même si c'est ceux qui ont tendance à intervenir beaucoup dans les médias et donc à s'auto-célébrer en quelque sorte, eh bien, ce ne sont souvent pas les plus influents et pas les plus écoutés. C'est ce que j'essaie de montrer dans mes travaux. Alors, ils ont eu un moment de grâce quand même à la fin des années 70 et dans les années 80, où clairement, c'était l'apogée à la fois des publicitaires dans le monde médiatique et c'était aussi l'apogée des publicitaires en politique. Puisque après Jacques Séguéla, il y a eu cette idée qu'un publicitaire pouvait faire gagner une élection présidentielle. Jacques Séguéla n'a cessé de s'auto-célébrer dans les années 1980. Et donc, derrière, il a été suivi par tout un tas d'autres conseillers en communication qui ont essayé de faire comme lui. Et les politiques, eux-mêmes, ont été pris au jeu, se sont dit qu'il y avait peut-être là quelque chose pour gagner, pour conquérir le pouvoir. Et donc, ils se sont entourés de conseillers en communication. C'est le cas aussi bien du Parti communiste à l'époque, qui était pourtant très rétif à ça, aussi bien que Raymond Barre, qui lui aussi n'apparaissait pas comme très intéressant par la publicité.
Le salaire moyen d'un Chinois, c'est 10% du SMIC. Et ils sont heureux, et ils se battent, et ils y croient, et ils font du 10%.
Non, faut pas exagérer.
Alors, si je vous parle beaucoup de ces années 80, c'est aussi parce que je n'ai pas tout à fait fini la réponse à votre précédente question, qui était sur les grandes figures. Je pense qu'il faudrait en rajouter une, c'est celle de François Mitterrand.
Oui, évidemment.
Qui, à mon avis, si De Gaulle est le modèle inatteignable, François Mitterrand, c'est le modèle que tout le monde cherche à atteindre. C'est le modèle suprême, en fait. Pourquoi ? Eh bien, pour deux raisons. C'est-à-dire que lui a réussi, ce que les autres ont eu du mal à faire, à trouver un équilibre entre la sacralité, puisque clairement, encore aujourd'hui, la figure de François Mitterrand apparaît comme une figure princière. Hein. Il était surnommé Dieu à l'époque. Les bébés de chaud le caricaturaient par la figure de Kermit Mitterrand en Dieu. Et donc, il avait cette forme de sacralité. Il en imposait aux autres. Il imposait le vouvoiement, d'ailleurs, à tout le monde. Et en même temps, il avait cette forme de proximité. Il était capable de se montrer proche des jeunes qui manifestent contre la loi de Vaquet en 86, des jeunes d'SOS Racisme. Il était capable de jouer du frisbee pendant une campagne électorale. Il était capable de participer à une émission comme Questions à domicile ou comme Ça nous intéresse, Monsieur le Président, et parler du langage encore des jeunes. Donc, il était capable de faire tout ça et en même temps de garder cette stature présidentielle. Et c'est sans doute le dernier président à avoir gardé justement cette aura que les autres derrière ont peut-être eu de manière très brève et n'ont pas réussi à la garder. Donc, c'est encore pour ça qu'il apparaît comme un modèle.
Vous savez, moi, quand j'étais enfant, déjà, on inversait l'ordre des syllabes dans le mot. Hein. C'est pas très nouveau, ça. D'autant plus que ça veut dire brancher, bien entendu, je ne vais pas faire le malin, très informé. Mais c'est déjà un peu dépassé, hein. Vous auriez dû dire câblé.
Le deuxième élément qui le fait apparaître, justement, comme le modèle par excellence de toute communication politique sous la Ve République, c'est qu'il est, avec De Gaulle, la seule personne à avoir été, et avec Chirac, la seule personne à avoir été réélue. Sauf que pour De Gaulle, il n'avait pas été élu en 58, donc il a été simplement élu en 65 au suffrage universel. Quant à Jacques Chirac, c'était évidemment dans un contexte très particulier, avec un score très faible au premier tour, mais face à un adversaire qui lui a permis de l'emporter très largement au second tour, donc dans un schéma très particulier. Alors, on pourrait dire aussi que pour François Mitterrand, il y a eu la cohabitation qui l'a beaucoup aidé, mais néanmoins, il apparaît comme celui, le seul, qui a réussi l'exploit d'être réélu avec un score triomphal, hein, 55% des voix au second tour.
Est-ce que finalement, la communication politique, elle n'a pas tendance, un peu comme l'exécutif, puisqu'on parle d'élection, à changer de main tous les 5 ans, en ce moment ?
Alors, j'aurais même tendance à dire que c'est plus rapide que ça,
oui.
Puisque clairement, aujourd'hui, en 2017, on s'est beaucoup intéressé à la communication oui. Présidentielle, évidemment, enfin, pardon, à la communication d'Emmanuel Macron, qui est devenue donc communication présidentielle. Puis très rapidement, finalement, eh bien, beaucoup ont commencé à la critiquer. Et aujourd'hui, on voit même beaucoup de gens qui s'en désintéressent complètement, finalement, qui n'écoutent même plus ce qui est dit. Ce qui est d'ailleurs un des problèmes hein, pour le gouvernement d'un pays. Comment gouverner un pays lorsque plus personne ne vous écoute ou en tout cas, une frange minoritaire de la population. Ce qui va être un défi, pas seulement pour Emmanuel Macron, mais pour tous ses successeurs à venir, si tant est qu'il y ait des successeurs. Donc aujourd'hui, clairement, on s'est intéressé à la communication des Gilets jaunes, on s'intéresse à la communication du Rassemblement national, d'autres partis politiques. Donc les tendances vont très vite, en fait. Même si, évidemment, la fonction présidentielle continue à garder une aura. J'ai pas mal travaillé ces derniers mois sur la communication des Gilets jaunes, enfin la médiatisation des Gilets jaunes. Et puis, à l'heure actuelle, je m'intéresse aussi à la communication d'Emmanuel Macron pendant la crise des Gilets jaunes. Et on voit bien que, néanmoins, contrairement à ce que je pensais, d'ailleurs, je l'imaginais assez silencieux durant cette période, Emmanuel Macron. En réalité, même s'il est plus silencieux que d'habitude, une simple prise de parole de sa part écrase toute la sphère médiatique et imprime l'agenda, en fait. Donc, il n'a pas perdu tout pouvoir dans les sphères médiatiques. Néanmoins, clairement, son image s'est beaucoup affaiblie.
Cette pratique du silence, parce qu'on parlait justement de ça, vous évoquiez l'idée d'Emmanuel Macron dont on avait la sensation qu'il s'était un peu mis en retrait pendant cette période. Quelque part, ça rejoint cette idée qui, je crois, selon vous, est très française, que autant un candidat pendant une élection doit beaucoup communiquer, mmh. autant un président a plutôt tendance à se dire qu'il faut qu'il se mette en retrait, qu'il faut qu'il préserve quelque part sa parole.
Oui, complètement. Et c'est là encore lié eh bien, au modèle François Mitterrand, hein,
ouais.
puisque c'est Mitterrand, et plutôt ses conseillers en communication, et notamment Jacques Pilan.
Qui le sorcier de l'Élysée.
Voilà, exactement. Qui ont théorisé cette, du nom en fait, d'un livre de François Bazin.
Ouais.
Qui ont théorisé cette idée que, en fait, effectivement, il fallait préserver la sacralité présidentielle. Et comment la préserver à l'heure du flot médiatique ? Eh bien, c'est en évitant justement au président de prendre la parole de manière récurrente pour commenter toute l'actualité, mmh. ce qui du coup crée une forme de tension. Ce silence crée une tension et donc du coup un désir de communication. On est à l'époque aussi où la psychanalyse est reine et donc on s'inspire de ces théories psychanalytiques. Et donc ce désir va permettre finalement un intérêt beaucoup plus grand, une attente à l'égard du discours présidentiel. Sauf que ben, ce tempo-là, il est aujourd'hui très compliqué à tenir dans la société médiatique que l'on connaît, hein, où il n'y a plus seulement, comme à l'époque, la télévision et donc le journal de 13h ou surtout de 20h, voire la publication de la presse le matin ou le soir. Aujourd'hui, il y a de l'information en continu, constamment, via les chaînes d'information en continu, je ne les citerai pas, mais également via eh bien, Internet et notamment les réseaux sociaux, sans parler même des pop-up qu'on peut recevoir directement sur son oui. portable en permanence.
Si je vous dis que du fait de ce changement d'époque qu'on évoquait à l'instant, on est passé de la communication politique, la compole, à la trollpole, au trolling politique. Est-ce que c'est une vue très journalistique des choses ou est-ce qu'on s'approche un peu de la réalité ?
Bon, faudrait déjà donner une définition de ce qu'on appelle le trolling. Y a des chercheurs qui s'intéressent d'ailleurs à la sociologie des trolls, j'en connais au moins un. Ce qui est un sujet d'ailleurs passionnant. Les trolls, ils ont pour spécificité eh bien d'intervenir à tout bout de champ pour dire des choses qui n'ont pas forcément un rapport d'ailleurs avec ce qui était dit, et puis d'essayer d'utiliser l'humour, l'ironie en permanence. Je ne sais pas si c'est une définition qui vous convient,
ça me convient
à peu près. Donc en politique, cette question de l'humour, de la dérision, on la retrouve encore qu'elle soit finalement peut-être moins présente qu'avant, parce qu'on n'a plus la période des guignols qui clairement faisaient une forme de trollage ou trolling, si vous le voulez. Donc ça, on l'a perdu. Il n'y a plus beaucoup de sphères d'humour politique. Ça serait d'ailleurs un vrai sujet d'étude à venir. En tout cas, il y en a moins qu'avant. Donc À mon avis, c'est ça qui nuancerait un petit peu cette affirmation-là. Et puis, les politiques eux-mêmes, finalement, reprennent pas tellement à leur compte, sauf quelques personnalités spécifiques, cette idée justement qu'il faut intervenir à tout bout de champ. Mmh. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de politiques qui comprennent qu'il faut avoir une certaine respectabilité et qu'on peut pas tout dire n'importe quoi et n'importe quand et n'importe comment. Donc, je modérerai un petit peu cette affirmation-là, sauf pour certaines personnalités spécifiques qui en font leur miel, hein, leur réputation. Et par exemple, on a vu aux États-Unis Donald Trump est une forme de troll devenu président, oui. Hein, puisqu'il intervient à tout bout de champ pour commenter tout et n'importe quoi, et en général, y compris raconter des choses qui sont complètement aberrantes, mais puisque personne ne les vérifiera, c'est pas grave. Dans d'autres pays, il est clair que ça existe. En France, ça reste limité à des franges quand même assez spécifiques. Il y a certaines personnalités politiques, notamment entre la droite et l'extrême droite, qui aiment bien justement aller sur tous les plateaux de télé, dire des choses plus ou moins incongrues et en faire leur miel. Jean-Marie Le Pen, pendant longtemps, a fait ça, et c'était bien avant l'émergence de l'Internet.
Si je précise un peu cette idée de la part grandissante de l'esprit troll dans la politique, on assiste quand même à une forme de réduction du temps, quelque part, dans la communication, et une forme de disparition des filtres. Je pense notamment à cette manière qu'ont pu avoir certains responsables politiques de répondre directement à ceux qui les interpellent, notamment sur les réseaux sociaux. Je pense au tout début de la crise des Gilets jaunes, où on a vu des ministres se filmer en vidéo pour répondre à des vidéos virales Facebook, où là, c'est un tout nouvel axe de communication qui n'existait pas du tout avant.
Oui. Enfin, il y a toujours eu des situations où les politiques se sont retrouvés en contact direct avec les citoyens. On pense à De Gaulle qui, au Salon de l'Agriculture, dans les années 60, se fait interpeller par quelqu'un qui dit « mort au con » et lui répond « vaste programme ».
Oui, mais ça restait limité à des petites interactions.
Oui, mais des petites interactions. Mais en l'occurrence, c'est un peu la même chose sur les réseaux sociaux.
Ce que je veux dire, ce n'est pas des interactions qu'on pouvait voir et revoir, revisionner des vidéos 1 million, 2 millions de fois, si on le voulait.
Oui, sauf que si elles étaient diffusées à la télé, elles étaient vues par... À l'époque, la télé était regardée par 80% de la population parce qu'il n'y avait pas beaucoup de chaînes. Voilà, je pense que je serais un peu plus nuancé là-dessus. Le Castop of Con de Nicolas Sarkozy reste quand même aujourd'hui un élément non négligeable dans les mémoires collectives. Donc, je ne suis pas certain. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, il y a une forme de récurrence, d'ailleurs assez étrange de la part des politiques, puisque je pense que beaucoup de leurs conseillers leur disent qu'il ne faut surtout pas faire ça, de vouloir répondre comme ça directement. En fait, c'est un peu une léonardisation, je ne sais pas comment on pourrait le dire.
Du nom de l'affaire Léonarda. À l'époque où François Hollande avait pris la parole directement contre l'avis de tous ses conseillers.
Exactement, et surtout, ce qui était terrible, c'est que Léonarda lui avait répondu dans la minute, depuis la Serbie, je crois, grâce à BFM TV. Voilà, c'est une forme de communication directe, effectivement, qui semble se répondre, mais après, je ne suis pas persuadé que ce soit totalement nouveau. En tout cas, ça ne participe pas, effectivement, à une forme de prise de distance, de réflexion, qui est sans doute nécessaire au discours politique.
Quand le gouvernement est pris en flagrant délit de diffusion, tentative de diffusion de fake news, comme ça a été le cas lors de l'affaire Benalla, on est toujours dans le champ de la communication politique, on a complètement changé d'univers.
Je pense que vous avez regardé comme moi les images. On a du mal à s'imaginer que ce ne soit pas de la communication politique, puisqu'on voit Christophe Castaner, qui, si je me souviens bien, est dans la cour de l'hôpital avec M. Nunez, qui est donc le secrétaire d'État. Oui. Et puis derrière eux, une rangée de policiers. Il y a également le préfet de police, si je me souviens bien, M. Lallemand. Et donc, il y a une rangée de policiers armés jusqu'aux dents. On voit bien clairement que là, il y a une mise en scène. On ne leur a pas dit, si on allait filmer cette conférence de presse. Non, enfin, tout ça a été mis en scène. Et l'idée, c'est de montrer justement un gouvernement qui est prêt à agir face aux casseurs, face à ceux qui sont prêts à tout, en l'occurrence les Gilets jaunes, dans ce contexte effectivement où on les accuse à l'époque de s'être immiscés au sein de l'hôpital, et notamment dans le service de réanimation. Donc là, il y a clairement un art de la mise en scène qui se retourne contre le gouvernement parce que finalement les faits sont solides. Mais là encore, ça montre bien cette idée qu'en voulant réagir à tout bout de champ, constamment, sans être sûr finalement des informations qu'on a, et c'est quand même difficile à l'heure actuelle et dans des situations aussi confuses que les manifestations des Gilets jaunes d'avoir des informations qui soient claires sans attendre quelques heures. Il suffit bien de regarder, si on a regardé la manifestation à la télévision, on a eu des informations sont totalement contradictoires, où on a l'impression que le soir, comme le lendemain matin d'ailleurs, bah finalement les Gilets jaunes ont absolument tout cassé dans Paris et ont quand même commis l'acte scandaleux de rentrer dans un service de réanimation. Et puis on s'aperçoit quelques minutes après que finalement, bah non, ce n'était pas le cas et que tout ça a été monté en épingle.
On parle souvent de crise de la politique en France, c'est une thématique assez récurrente en tout cas dans les médias. Est-ce qu'il y a une crise de la communication politique également ?
Oui, sans doute, de deux manières. D'abord, la première, c'est que cette communication politique, il faut quand même se souvenir qu'au-delà des mises en scène, etc., il y avait quand même un but, c'était l'idée qu'on allait mieux communiquer auprès des citoyens. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle connaît un tel essor dans les années 70-80, une époque où on cherche, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de proximité. Donc il faut dialoguer, il faut parler avec les citoyens. Et puis l'autre idée, c'est que parce qu'il y a une impopularité croissante, donc une forme de distance, parce qu'il y a une situation économique qui est aussi de plus en plus difficile depuis les années 70, et bien justement, la communication est vue par les politiques comme une manière justement de ressouder les liens avec les citoyens. Ça, c'est une vision un peu idéale de la communication politique, qui j'espère n'a pas complètement disparu. Le problème, c'est que, aujourd'hui, lorsqu'un politique parle, il y a de moins en moins de gens qui l'écoutent. Alors, c'est pas vrai pour tout le monde, mais c'est vrai quand même pour les gouvernants, et c'est ça qui est sans doute le plus grave. C'était particulièrement vrai sous François Hollande, ça commence à devenir le cas pour Emmanuel Macron. Finalement, les Gilets jaunes, c'est aussi une expression de ce malaise à l'égard de la politique, sauf que les gens, justement, n'ont pas complètement perdu l'idée que la politique était nécessaire à la société, et donc, par le social, on recrée du politique par la manifestation. Sauf que derrière... Eh bien, comment on recrée, à partir de ce désespoir-là, quelque chose de tangible ?
Alors, est-ce que réinventer la politique, ça veut également dire réinventer la communication ? En tout cas, les mouvements de Gilets jaunes, puisqu'on en parlait, ont clairement montré leur maîtrise des nouveaux outils, notamment par leur usage de Facebook, dont on vous avait longuement parlé dans un épisode de Programme B, c'était il y a quelques mois déjà. Et je vous invite d'ailleurs à le réécouter, parce que c'est l'occasion. Merci à Pierre-Emmanuel Guigou pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.